c'est ça aussi que j'ai voulu évoquer dans le voyage, c'est-à-dire dans quelles conditions on part là-bas. On vient pas de nulle part. Donc pour moi, le point de vue, la façon de se situer par rapport à un tel voyage était très importante dans la perception en fait, que nous allions avoir là-bas. Et particulièrement, je voulais évoquer l'imaginaire que je me faisais autour de Tchernobyl, sans savoir que c'était d'ailleurs un imaginaire. Mais pour moi, Tchernobyl, c'était noir, c'était sombre, c'était le pays où rôde la mort, c'était dangereux. Donc j'associais ça à des couleurs sombres, à du noir, des fusains, des craies noires, de l'encre de Chine. Je dirais les premiers jours dans la zone correspondaient à cet imaginaire. La surprise, elle est venue après.
Alors justement, on parle d'aquarelle, de craie grasse, de crayon. Comment on fait un choix justement quand on fait cette BD? Comment on choisit et on marque ses choix dans son dessin?
Ça se fait
plutôt que d'utiliser des ancrages comme d'autres font, quoi. Quel commun,
vous voulez dire dans la bande dessinée même, voilà, ou dans les croquis que j'ai fait sur place? Disons que l'idée de, enfin, en tout cas pour les îles de la Désolation, j'ai opté pour une bande dessinée en noir et blanc pour la dissocier des croquis qui avaient été faits sur place. D'ailleurs, la bande dessinée, je l'ai faite évidemment à mon retour. Donc, dans cette bande dessinée sont insérés un certain nombre de croquis fait sur place. Donc justement pour les dissocier, pour qu'il n'y ait pas de confusion, j'ai opté pour le lavis noir et blanc. Pour voyage à Tchernobyl, je me suis dit, j'ai utilisé cette même démarche, c'est-à-dire une partie, le noir et blanc pour la narration, et j'irai, puis étant donné qu'il y a pas mal de croquis en couleur, les croquis sont définis parce qu'eux, ils sont en couleur. Et petit à petit, le cheminement a été différent, parce que je me suis dit, mais la couleur peut être aussi un élément narratif. Et du coup, au fur et à mesure du récit, j'ai essayé de faire venir la couleur progressivement, plutôt que de façon abrupte, radicale, telle que j'avais fait dans le voyage de la Désolation.
Justement, la question suivante, c'est la première partie, donc justement peu de couleurs. Et donc après, ensuite, est-ce que le fait de faire que du noir, c'est signe de traduction de pudeur et de stratégie?
Pudeur et stratégie. De pudeur, je sais pas. De stratégie, je sais pas si c'est le terme. Disons que c'est un choix narratif, oui. Parce que, disons que j'ai voulu que cette première partie de ce livre soit fidèle à l'imaginaire que j'avais, c'est-à-dire une ambiance assez crépusculaire. De partir à Tchernobyl, pour moi, c'était aller au pays de la mort. Donc, pour moi, j'ai essayé de je me suis dit que pour beaucoup, pour la plupart des gens, Tchernobyl c'est ça. Tchernobyl c'est des arbres décharnés, c'est des arbres tordus, c'est des monstres, c'est sombre, c'est noir. Je me souviens de questions quand j'étais à Tchernobyl, quand je suis revenu de Tchernobyl, on me disait mais ça repousse. Donc il y a tout cet imaginaire en fait qui est très 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 puissant. Et donc j'ai voulu que cette première page corresponde à cet imaginaire qui, je pense, que l'imaginaire de tout le monde, c'est-à-dire Tchernobyl, c'est sinistre. Et ma surprise, elle vient après, quand je me rends compte que Tchernobyl, ça ne correspond pas à l'image que je m'en fais. C'est-à-dire que c'est pas noir, au contraire. J'étais au printemps, c'est-à-dire que les couleurs explosaient. C'était d'une beauté absolument inouïe. Mais je vais le découvrir petit à petit. Et donc ce choix narratif, c'est-à-dire ce choix de faire venir la couleur petit à petit, correspond à ce qu'a été moi-même ma découverte de la couleur là-bas, enfin de la vie. J'associe évidemment la couleur à la vie.
Alors justement, dans cet ouvrage, à certains moments, on fait rapport au tic-tac du dosimètre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cet outil qui permet justement de calculer le degré?
Bah, disons que c'est un outil qui nous suit en permanence, qu'on a en permanence dans la poche, qui nous indique quelle est la contamination de la zone où nous sommes. Parce que ça varie, c'est pas du tout égal. C'est pas d'un endroit à l'autre, par exemple du bitume. Par exemple, le bitume, à force d'être lavé par la pluie, et lavé aussi de tous les radionuclides. Donc il est, on trouve sur le bitume des doses qui sont proches de celles qu'on peut trouver en Bretagne, par exemple. Mais dès que vous passez dans les frondaisons, vous allez dans les endroits où il y a de la mousse, ça peut monter jusqu'à 10, 20, 100 fois, 200 fois, 1000 fois le taux naturel de radioactivité. Donc on est en permanence avec ça pour savoir où on met les pieds et ce qui fait qu'on va rester longtemps ou pas à tel endroit. Voilà. Donc évidemment, par précaution, on reste le plus souvent possible sur le bitume. Mais voilà, c'est ce qui nous indique le danger, puisque nos sens ne nous disent rien du réel. Et c'est ça qui est particulièrement troublant à Tchernobyl, c'est que tous nos sens nous disent c'est beau, on est dans des forêts magnifiques, il y a des animaux, il y a plein de des oiseaux. En plus, il n'y a plus de bruit, puisque l'homme a déserté cette zone depuis 25 ans maintenant. Donc vous êtes dans une campagne rousseauiste, merveilleuse. Et seul le dosimètre nous dit le réel. Parce que nos sens ne nous disent rien du réel. C'est ça qui est très troublant.
Alors justement, on parle que l'homme a effectivement disparu de cette zone, mais la nature reprend aussi ses droits.
La nature est là partout. Petit à petit, elle gagne les routes, elle engloutit les maisons. Je pense qu'il y a certains villages qui existent encore en bois. Dans 20 ans, il n'y a plus rien. Puisqu'en plus, la ferraille elle-même a été pillée très souvent. Donc ce qui reste, c'est souvent des baraques en bois qui, au fil du temps, finiront par disparaître. La nature est partout et elle s'est adaptée aussi à cet environnement radioactif. Ça qui est très curieux, c'est qu'aujourd'hui on peut faire des expériences, des observations comme quoi certains animaux, quoique ce sont des animaux radioactifs, donc c'est des animaux qui ont muté. Alors ça ne correspond pas à l'imaginaire, hein. Les souris restent une souris, elle n'aura pas 5 pattes ou elle ne fera pas 2 mètres de long. Mais c'est néanmoins une souris mutante dans le sens où normalement avec un taux de radioactivité comme ça, il n'y a pas de vie possible chez la souris. Donc ça veut dire que c'est une souris qui a fini par s'adapter avec ça. Mais on l'observe parce qu'on est aujourd'hui 30 ou 40 générations de souris depuis l'accident. Donc il y a une mutation des animaux, mais ce que l'on voit, enfin ce que notre œil voit, c'est des animaux partout, c'est-à-dire vous avez des sangliers, des biches, vous avez des loups, des ours, des cigognes, il y en a plein, et c'est une immense réserve naturelle, c'est ça qui est inouï, c'est que Tchernobyl est une réserve naturelle.
Alors justement, il y a une petite anecdote aussi sur cet ouvrage, qui concerne plus votre santé. Avant de partir à Tchernobyl, vous aviez plus qu'une tendinite, et en venant de Tchernobyl, vous pouviez réécrire. Est-ce que c'est le miracle de Tchernobyl ?
C'est un miracle. En fait, comme disait, il va te pousser un troisième bras, finalement, c'était pas si faux que ça. Oui, j'avais ce qu'on appelle la crampe de l'écrivain, voilà, communément. Donc qui est toujours quelque chose qui m'handicape, hein, puisque c'est assez irréversible. Mais c'est vrai qu'avant de partir à Tchernobyl, je ne me voyais plus dessiner, c'est-à-dire je n'arrivais plus à tenir un crayon, je ne pouvais plus dessiner, je ne pouvais plus ancrer, je ne pouvais plus écrire, enfin ça n'a pas tellement changé, j'ai beaucoup de mal à écrire aujourd'hui encore. Mais c'est ce qui était très troublant à Tchernobyl, c'est sans doute pris par la puissance de ce que je vivais, de ce que je voyais, de ce désir de raconter a été extrêmement fort. Et peut-être aussi de travailler avec d'autres outils dans des conditions différentes. Je travaillais la plupart du temps debout ou assis sur un pliant, puisqu'on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas s'asseoir dans l'herbe, on ne peut pas s'appuyer contre un arbre. Je dessinais avec des gants en caoutchouc aux mains, un masque sur le nez. Peut-être que tout ça en fait a participé à une mutation aussi de ma façon de travailler et de me rendre compte petit à petit que je pouvais encore dessiner. Et cette découverte de me rendre compte que je pouvais encore dessiner a été pour moi une vraie renaissance. Et donc je me suis retrouvé avec un appétit de dessin comme je n'en avais pas connu depuis, je dirais, l'adolescence peut-être. Et c'est ça qui est très troublant, c'est que je vais dans ce pays que j'imagine sinistre et terrible, sur les lieux d'une des plus grandes catastrophes technologiques, la plus grande catastrophe technologique du XXe siècle. Et moi, je renais. J'ai l'impression de renaître à la vie. Parce que le dessin, c'est ma vie.
Et justement, quels sont vos projets maintenant, dans les prochains mois, les prochaines années à venir?
Alors, le prochain projet, c'est que je pars en Antarctique dans un mois et demi, pour près de 3 mois. Pour faire